Chapitre 17. Aujourd'hui, en écrivant ces mots tant d'années après, j'aurais pensé qu'il me serait difficile de me rappeler né enfant. Mais ce n'est pas le cas. Mes souvenirs foisonnent d'images des années ultérieures. Le soleil doré jouant sur la peau de la femme qu'elle allait devenir, tandis que nous flottions parmi les branches de la forêt orbitale. La première fois que nous fîmes l'amour sous gravité zéro. Nos promenades sur les passerelles suspendues de Swan Kunsu, avec les falaises roses et rouges de Huashan, captant la riche lumière au-dessus de nous. J'avais peur que mes premiers souvenirs d'elle ne soient trop insubstantiels par comparaison, mais ce n'est nullement le cas. Et je n'ai pas cédé non plus à l'impulsion de sauter par-dessus les années, malgré la peur que ce récit ne soit interrompu d'une seconde à l'autre par le sifflement quantique du gaz empoisonné de Schrödinger. J'écrirai ce que je pourrai. Le sort déterminera la fin de cette narration. Abetik nous précéda dans l'escalier spiralé qui menait à la salle du piano, tandis que nous foncions dans l'espace. Le champ de confinement maintenait constante la gravité du vaisseau, malgré l'accélération très forte, mais j'étais toujours dans un état d'excitation difficilement contrôlable, dû peut-être aux effets de l'adrénaline sur une période de temps si courte. L'enfant était sale, les cheveux en désordre, et encore en état de choc.
« J'aimerais voir où nous sommes, » me dit-elle. « S'il te plaît. »
Le vaisseau lui donna satisfaction en rendant transparente la paroi qui se trouvait derrière la fosse holo. Le continent d'Écluse, au-dessus de nous, était en train de s'éloigner. La tête chevaline était voilée par un nuage de poussière rouge. Au nord, là où les nuages couvraient le pôle, le limbe d'Hyperion s'arquait en une courbe distincte. Une minute plus tard, la planète entière devint un globe, avec seulement deux des trois continents visibles sous les nuages épars, la grande mer du sud, formant une tache d'un bleu intense, et l'archipel des neuf queues entouré du vert émeraude du plateau continental. Puis le globe devint une petite boule de bleu, de rouge et de blanc, et nous le perdîmes de vue. Nous filions à toute vitesse.
Où sont les vaisseaux torches ?
Demandai-je à l'androïde.
Ils auraient dû nous lancer des sommations à l'heure qu'il est, ou nous anéantir.
Le vaisseau et moi, nous avons écouté leur communication sur large bande. Ils ont eu quelques contretemps.
Je ne comprends pas,
déclarai-je en commençant à faire les 100 pas au bord de la fosse holo, trop agité pour prendre place au creux des coussins moelleux.
Ces combats, qui donc ?
Le Gritch,
me dit Aîné en me regardant vraiment pour la première fois.
Maman et moi, nous espérions que les choses se passeraient autrement. Mais c'est arrivé, et je suis désolée, crois-moi, terriblement désolée.
Me disant qu'elle ne m'avait probablement pas entendu dans la tempête, je cessai d'aller et venir, me laissai tomber sur le bras du canapé et murmurai.
Nous ne nous sommes pas vraiment présentés. Je m'appelle Roland Dimion.
Les yeux de la fillette étaient brillants. Malgré la boue et la crasse qui lui maculaient la joue, je vis qu'elle avait un teint d'une blancheur superbe.
« Je me souviens, » me dit-elle, « Endymion, comme le poème. »
« Le poème ? Quel poème ?
C'est le nom d'une vieille cité. »
Elle me sourit.
« Je ne connais que le poème. C'est mon père qui l'a écrit. Mon oncle Martin a bien choisi son héros avec un nom comme ça. »
Je me tortillais, embarrassé par ce mot « héros ». L'entreprise était déjà assez absurde comme ça. La fillette me tendit sa petite main.
« Aîné, »
me dit-elle.
« Mais tu le sais déjà. »
Ses doigts étaient glacés dans les miens.
« Le vieux poète m'a dit que tu avais changé plusieurs fois de nom, » murmurai-je.
Elle eut un sourire.
« Et j'en changerai encore, je présume ?»
Dégageant sa main, elle l'offrit à l'androïde.
« Aînée, »
dit-elle,
« l'orpheline du temps. »
Abetik lui serra la main avec plus de grâce que je ne l'avais fait. Il s'inclina très bas en se présentant.
« Je suis tout à votre service, Ashlamia, » lui dit-il.
Elle secoua la tête.
« C'est ma mère qui était Ashlamia. Moi, je suis juste aînée. »
Remarquant un changement dans mon expression, elle se tourna vers moi.
« Tu as entendu parler de ma mère ?
Elle est célèbre, répliquai-je en rougissant, j'ignore pourquoi. Tous les pèlerins d'Hyperion le sont, poursuivis-je. Ils sont même légendaires grâce au poème épique, à la véritable épopée de tradition orale qui...
Ah !
Fit Aîné en éclatant de rire.
Je vois que mon oncle Martin a fini ses foutus cantos.
Je dois admettre que je fus choqué. Et cela dut se voir sur mon visage. Encore heureux que je n'ai pas été en train de jouer au poker ce matin-là.
Désolé,
fit Aîné une fois de plus.
J'ai l'impression que les gribouillages du vieux satyre sont devenus une espèce de trésor culturel sans prix. Il est encore vivant? Je veux parler de l'oncle Martin, naturellement.
Oui, Ashla. Oui, H. Aîné, fit Abétique. J'ai eu le privilège de servir votre oncle durant plus d'un siècle. La fillette fit la grimace.
Vous devez être un saint, H. Bétique.
Ah, Bétique, corrigea l'androïde. Non, je ne suis pas un saint. Uniquement un admirateur et une connaissance de longue date de votre oncle. Aîné hocha la tête.
J'ai connu quelques androïdes quand nous allions à Jacktown rendre visite à l'oncle Martin dans la Cité des Poètes. Mais je ne vous ai jamais vu. Plus d'un siècle, vraiment? En quelle année sommes-nous?
Je le lui dis.
Enfin, on a quand même réussi pour cette partie-là,
déclara Aîné. Elle demeura quelque temps silencieuse, le regard fixé sur l'image holo de la planète qui s'éloignait. Hyperion n'était plus à présent qu'une tête d'épingle.
Tu viens réellement du passé?
Demandai-je.
C'était une question stupide, mais je ne me sentais pas particulièrement en forme ce matin-là.
Elle hocha la tête.
L'oncle Martin a dû t'en parler?
Oui. Tu dois fuir la Pax. Elle leva la tête, les yeux brillants de larmes qui ne coulaient pas.
La Pax? C'est ainsi qu'il s'appelle à présent?
Je clignai des yeux. L'idée que quelqu'un pût ignorer l'existence de la Pax me faisait l'effet d'un choc. Oui, murmurai-je.
L'Église dirige donc vraiment tout aujourd'hui?
D'une certaine manière, oui. Je lui expliquai le rôle que jouait l'Église au sein de l'entité complexe qu'était la Pax.
C'est l'Église qui dirige tout,
conclut Aîné.
Nous pensions bien qu'il en serait ainsi. Et c'est ce que j'ai vu dans mes rêves également.
Tes rêves?
C'est sans importance,
murmura-t-elle. Elle se leva, regarda un peu partout autour d'elle et s'avança jusqu'au Steinway. Ses doigts jouèrent quelques notes sur le clavier.
« Et nous sommes à bord du vaisseau du consul, »
dit-elle.
« Oui, » répondit le vaisseau, « mais je ne garde que des souvenirs très vagues du personnage. Vous l'avez connu ?»
Elle sourit, caressant les touches de l'instrument.
« Pas moi, mais ma mère. C'est elle qui lui a fait ce cadeau. »
Elle désigna du doigt le tapis Hawking couvert de sable, qui était resté près de l'escalier.
Lorsque nous avons quitté Hyperion après la chute, il devait retourner dans le Retz. Il n'est pas revenu à mon époque.
Il n'est jamais revenu, fit le vaisseau. Comme je l'ai déjà dit, mes mémoires ont été quelque peu endommagées, mais j'ai la certitude qu'il est mort quelque part là-bas.
Sa voix changea, devint plus froide et professionnelle. Nous avons été interpellés quand nous avons quitté l'atmosphère, mais personne ne s'est lancé depuis à notre poursuite. Nous sommes sortis de l'espace cislunaire et quitterons le puits gravitique critique de la planète dans moins de 10 minutes. J'ai besoin de régler le cap en vue de la surgiration. Vos instructions, je vous prie.
Je me tournai vers la fillette. Les extros?
C'est là que le vieux poète m'a dit que tu voudrais aller.
J'ai changé d'avis,
fit Aîné.
Quel est le monde habité le plus proche de nous, vaisseau?
Parvati. À 1,28 parsec, 6 jours et demi de temps de transit, 3 mois de déficit de temps.
Parvati faisait partie du Retz?
Demanda la petite fille. Ce fut Abétique qui répondit.
Non, pas à l'époque de la chute.
À quelle distance de Parvati se trouve le monde de l'ancien Retz le plus proche?
Le vecteur Renaissance est à 10 jours de vaisseau supplémentaire, représentant un déficit de temps de 5 mois.
Répondit aussitôt le système de bord. Je fronçai les sourcils.
« Je ne sais pas, » déclarai-je. Les chasseurs, ceux qui m'employaient et qui venaient d'un autre monde, ils étaient généralement originaires du vecteur Renaissance. C'est un monde important de la Pax, avec beaucoup de mouvements de vaisseaux et de troupes, je pense.
« Mais c'est le monde du Retz le plus proche ?»
demanda Aîné.
« Et il avait des portes distrance ?»«
Oui, » répondirent en même temps le système de bord et l'androïde.
« Mettez le cap sur le vecteur Renaissance, via le système de Parvati, »
ordonna Aîné. Nous gagnerions un jour de translation et 2 semaines de déficit de temps en sautant directement dans le vecteur Renaissance, si telle est notre destination, » fit remarquer le vaisseau.
« Je le sais, » répliqua Aîné. « Mais je veux transiter par le système de Parvati. »
Elle dut lire la question dans mes yeux, car elle ajouta.
« Ils vont nous suivre. Je ne veux pas qu'ils connaissent notre véritable destination quand nous quitterons ce système. »
« Personne ne nous poursuit pour le moment, » déclara Abétik.
« Je sais, mais cela ne va pas tarder. Dans quelques heures et pour tout le reste de mon existence. »
Elle regarda le centre du foyer holo, comme si c'était là que résidait la personnalité du vaisseau.
« Veuillez exécuter vos instructions, »
dit-elle. Les étoiles basculèrent dans l'affichage holo, tandis que le vaisseau obéissait. « Translation vers le système de Parvati dans 27 minutes, » annonça-t-il. « Aucun poursuivant pour le moment, mais le vaisseau torche Saint-Antoine a appareillé, de même que le transport de troupes. » « Et l'autre vaisseau torche, » demandai-je, « le Saint-Bonaventure, je crois ?»« Les signaux sur bande commune et nos détecteurs indiquent qu'il a des brèches et émet des appels de détresse. » Le Saint-Antoine vient de lui répondre.
« Mon Dieu !» murmurai-je. « Qu'est-ce qu'il y a eu ? Une attaque des extras ?»
La fillette secoua la tête et s'éloigna du piano.
« Le Gritch, c'est tout !»
murmura-t-elle.
« Mon père m'avait prévenu. »
Elle baissa la tête et demeura silencieuse. « Le Gritch ?» demanda l'androïde. « À ma connaissance, et d'après la légende, corroborée par les archives, la créature qu'on appelle le Gritch n'a jamais quitté le sol d'Hyperion, ni même la proximité des tombeaux du temps, dans un rayon de plus de quelques centaines de kilomètres au maximum. » Aînée se laissa tomber en arrière parmi les coussins. Elle avait toujours les yeux rouges et paraissait épuisée.
« Bon, disons qu'il s'éloigne un peu de sa tanière à présent. Et mon père avait raison. Ça ne fait que commencer. »
« Le Gritch n'a pas été signalé depuis 300 ans, » murmurai-je. Aîné hocha distraitement la tête.
« Je sais. Il n'est pas revenu depuis l'ouverture des tombeaux, juste avant la chute. »
Elle leva les yeux vers l'androïde.
« J'ai une de ces faims, »
dit-elle.
« Et j'aurais besoin de me débarbouiller un peu aussi. »
« Je vais aider le vaisseau à préparer quelque chose, » fit Abéti. Et il y a des douches à l'étage, dans la grande chambre à coucher, et sur le pont de fugue au-dessous de nous. Il y a également une baignoire dans la salle de bain à côté de la chambre.
« J'y vais de ce pas, »
nous dit Aîné.
« Je vous rejoindrai avant le saut quantique. À tout à l'heure, dans 20 minutes. »
Avant de grimper l'escalier, elle s'arrêta pour me prendre la main.
« Désolé si j'ai pu te paraître ingrat, Roll, »
me dit-elle.
« Merci d'avoir risqué ta vie pour moi. Merci de m'accompagner dans ce voyage. Merci de t'aventurer dans quelque chose de si complexe et de si gros que personne ne peut savoir où cela nous mènera. »
« Il n'y a pas de quoi, » balbutiai-je stupidement. Elle me regarda en souriant.
« Tu as besoin de te décrasser, toi aussi. Un jour, tu verras, nous prendrons notre douche ensemble. Mais pour le moment, je crois préférable que tu te serves de celle du pont de fugue. »
Je battis des paupières, incapable de penser, et la regardai grimper les marches 2 à 2. Chapitre 18. Le père capitaine de Soya se réveille dans une crèche de résurrection à bord du Raphaël. On lui a permis de baptiser le vaisseau de la classe Archange. Raphaël est l'archange chargé de retrouver les amours perdus. Il n'a été régénéré que 2 fois auparavant, mais il y avait, dans les 2 cas, un prêtre chargé de l'accueillir et de lui faire boire une gorgée de vin sacramentel dans une coupe, suivi du traditionnel verre de jus d'orange. Il y avait aussi des experts en résurrection pour lui parler, pour lui expliquer ce qui se passait jusqu'à ce que son esprit désorienté recommence à fonctionner normalement. Cette fois-ci, il n'a autour de lui que les murs courbes et confinés de la crèche de résurrection. Des voyants clignotent et des écrans affichent des lignes de symboles et de caractères. Mais De Soya est incapable de les lire pour le moment. Il estime qu'il a de la chance de pouvoir penser. Il se redresse, les jambes pendantes au bord de la couchette de résurrection.
Les jambes. J'en ai deux.
Il est nu, naturellement. Sa peau, rose et luisante, a une teinte étrange dans l'atmosphère des tuves humides de la crèche. Il se tâte les côtes, l'abdomen, la jambe gauche, tous les endroits lacérés et saccagés par le démon. Il est parfaitement intact. Il n'y a plus aucune trace de la terrible blessure qui lui sectionnait la jambe.
Raphaël ?
Oui, père capitaine.
La voix est angélique, c'est-à-dire totalement dénuée d'identité sexuelle. De Soya la trouve apaisante.
Où sommes-nous ?
Dans le système de Parvati, père capitaine.
Et les autres ?
Il n'a qu'un souvenir brumeux du sergent Grégorius et des deux autres survivants de l'escouade. Aucun souvenir d'être monté à bord du courrier avec eux.
Ils sont en train de se réveiller, père capitaine.
Combien de temps s'est-il écoulé ?
Un peu moins de 4 jours depuis que le sergent vous a transporté à bord, père capitaine. Nous avons fait le saut moins d'une heure après votre installation dans la crèche. Nous sommes restés à 10 UA du mont de Parvati, selon vos instructions, que m'a communiqué le sergent Grégorius, durant les 3 jours qu'a duré votre résurrection.
De Soya hoche la tête en signe d'approbation, mais même ce léger mouvement lui est infiniment douloureux. Chaque cellule de son corps souffre de la résurrection. Mais c'est une douleur saine, qui n'a rien à voir avec l'agonie d'un corps endommagé par d'horribles blessures.
Avez-vous contacté les autorités de la Pax sur Parvati ?
Non, père capitaine.
Très bien.
Parvati était une colonie éloignée à l'époque de l'hégémonie. Aujourd'hui, c'est une colonie éloignée de la Pax. Elle ne possède aucun engin interstellaire, ni militaire, ni mercantilus, et n'a qu'un faible contingent de troupes, avec quelques vaisseaux interplanétaires rudimentaires. Si la capture de la fillette doit s'effectuer dans ce système, il va falloir que ce soit le Raphaël qui s'en charge.
Dernières informations sur le vaisseau de la petite fille ?
Demande-t-il.
Le vaisseau non identifié est entré en surgiration 2h18 avant nous.
Déclare le Raphaël.
Les coordonnées de translation, sans le moindre doute, étaient celles du système de Parvati. Arrivée estimée dans environ 2 mois, 3 semaines, 2 jours et 17 heures.
Merci, fait De Soya.
Quand Grégorius et les autres seront régénérés et opérationnels, dites-leur de me rejoindre dans la salle d'état-major. À vos ordres, père capitaine. 2 mois, 3 semaines. 2 jours. Sainte Mère, qu'est-ce que je vais faire pendant près de 3 mois dans ce système complètement désolé ?
Il n'a peut-être pas réfléchi assez clairement à tout ça. Ses facultés ont dû être obnubilées par les traumatismes répétés, la douleur et les drogues. Mais le système de la Pax le plus proche est le Vecteur Renaissance, qui se trouve à 10 jours de vaisseau de Parvati avec 5 mois de déficit de temps. 2 mois et 3 jours et demi après l'arrivée du vaisseau de la fillette en provenance d'Hyperion. Il ne devait pas avoir l'esprit clair quand il a fait ses calculs. Et il ne l'a pas plus aujourd'hui, se dit-il. Mais il a eu raison de prendre la décision qu'il a prise. Le mieux était de venir ici pour réfléchir à tout ça.
Je pourrais faire le saut jusqu'à Passem, demander de nouvelles instructions directement au haut commandement de la Pax, au pape lui-même. Récupérer pendant 2 mois et demi, et refaire le saut ici avec une bonne marge de temps.
De Soya secoue la tête. L'inconfort de sa position lui fait faire la grimace. Il a ses instructions. Capturer la fillette, la conduire sur Passem. Retourner sans elle au Vatican serait un grave aveu d'échec. Ils enverraient peut-être quelqu'un d'autre à sa place. Au cours des séances de préparation à cette mission, le capitaine Margaret Wu a bien insisté sur le fait que le Raphaël est unique. C'est le seul courrier de la classe Archange à être armé et à pouvoir emporter 6 personnes. Ils en ont peut-être mis un autre en circulation durant les quelques mois de déficit de temps qui se sont écoulés là-bas depuis son départ, mais il ne faut plus songer à retourner maintenant sur Passem. Si le Raphaël est toujours le seul courrier armé en opération, tout ce qu'il obtiendrait, ce serait d'ajouter les noms de 2 soldats de la Pax au rôle du vaisseau. La mort et la résurrection ne doivent pas être prises à la légère. Ce précepte lui a été inculqué profondément au catéchisme quand il était enfant. Ce n'est pas parce que le sacrement existe et qu'il est offert aux fidèles qu'il faut l'exercer avec moins de solennité et de rigueur. Non. Je vais discuter avec Grégorius et les autres pour voir ce que nous pouvons faire localement. Après avoir établi un plan, nous utiliserons les sarcophages de fugue cryotechnique pour laisser passer les 2 mois. Lorsque le vaisseau de la fillette arrivera, le Saint-Antoine sera lancé à sa poursuite. Entre le Raphaël et le vaisseau torche, nous devrions pouvoir intercepter leur vaisseau, monter à bord et récupérer la petite fille sans problème. Logiquement, tout cela est faisable, mais une autre partie du cerveau du père capitaine lui chuchote « Sans problème, c'est ce que tu te disais avant la mission d'Hyperion. » Le père capitaine de Soya laisse échapper un grognement, puis il descend de sa couchette de résurrection et s'éloigne à petits pas pour aller prendre une douche, boire une tasse de café bien chaud et s'habiller. Chapitre 19. Je ne savais pas grand-chose sur le fonctionnement des propulseurs Hawking la première fois que j'en ai utilisé un, il y a de cela des années. Je n'en sais pas beaucoup plus aujourd'hui. Le fait que cette technologie soit essentiellement, bien qu'accidentellement, le fruit de quelqu'un qui a vécu au XXe siècle de l'ère chrétienne m'embrouillait l'esprit à l'époque tout comme aujourd'hui, mais pas autant que l'expérience en elle-même. Nous nous retrouvâmes dans la bibliothèque, officiellement appelée salle de navigation, nous a pris le vaisseau. Quelques minutes avant la translation aux vitesses C+. J'avais mis mes vêtements de rechange et j'avais encore les cheveux mouillés, tout comme Aîné. L'enfant portait un peignoir de bain épais qu'elle avait dû trouver dans un placard du consul, car le vêtement était beaucoup trop ample pour elle. Elle ne faisait même pas 12 ans dans tous ses replis de tissu éponge. « Nous devrions peut-être gagner nos couchettes de fugue, » suggérai-je.
« Pourquoi ? »
demanda-t-elle.
« Tu ne veux pas rester voir le plus intéressant ?»
Je fronçai les sourcils. Tous les chasseurs et instructeurs militaires venus d'autres mondes, avec qui j'avais eu l'occasion de discuter, avaient l'habitude de passer leur temps ces plus en fugue. C'est ainsi que les humains ont toujours voyagé d'une étoile à une autre. C'est dû aux effets du champ Hawking sur l'organisme et l'esprit humain, un truc comme ça. J'imaginais des hallucinations, des cauchemars, une douleur insupportable. Je lui fis part de mes appréhensions d'une voix que je m'efforçais de garder calme.
Ma mère et mon oncle Martin m'ont dit que le C+ était facile et même agréable à supporter, me dit-elle. Simple question d'habitude, je pense.
Et ce vaisseau a été modifié par les extros pour vous faciliter la chose, renchérit Abétic.
Nous avions pris place, Aîné et moi, devant la table basse en verre qui occupait le centre de la bibliothèque. L'androïde se tenait debout, un peu à l'écart. J'avais beau le traiter en égal, il s'obstinait à se comporter comme un domestique. J'avais décidé de renoncer à mes ridicules efforts égalitaristes et de le laisser agir comme il l'entendait.
« C'est vrai, » confirma le vaisseau. « Le champ de confinement a été modifié de manière à atténuer les effets secondaires de la translation C+.
Quels sont ces effets secondaires exactement ? » m'informai-je.
Je ne tenais pas à étaler mon ignorance, mais je n'avais pas non plus envie de souffrir inutilement. Nous nous entre-regardâmes, l'androïde, la petite fille et moi. J'ai voyagé de nombreuses fois entre les étoiles au cours des siècles passés, nous dit Abétic, mais toujours en état de fugue. Et dans la soute, à vrai dire. Nous autres androïdes, nous étions entassés comme des carcasses de bœuf congelées, à ce que l'on raconte. Gênés, Aîné et moi évitions à présent de croiser le regard de notre ami à la peau bleue. Le vaisseau laissa alors entendre un bruit qui ressemblait remarquablement au raclement de gorge d'un humain.
D'après mes observations sur les passagers humains, qui peuvent cependant être sujets à caution en raison du mauvais état de votre mémoire, achevâmes-nous à l'unisson, aîné et moi. Nous nous regardâmes de nouveau, puis éclatâmes de rire.
« Désolé, vaisseau !»
fit aîné.
« Continuez !»
J'étais en train de dire que, d'après mes observations personnelles, l'effet le plus marqué chez les humains de la translation C+, est une certaine confusion visuelle accompagnée d'une légère dépression mentale causée par le chant et associée à un simple sentiment d'ennui. Je pense que la fugue cryotechnique a été conçue pour les très longs voyages et qu'elle n'est utilisée que comme élément de confort pour les courts déplacements comme celui-ci. Et vos modifications apportées par les extros ont amélioré ces effets secondaires ? Elles sont conçues pour cela. Naturellement, elles ne peuvent rien contre l'ennui. Il s'agit d'un phénomène typiquement humain, et je ne pense pas qu'un remède puisse être trouvé. Il y eut un moment de silence, et le vaisseau continua. Nous atteindrons le point de translation dans 2 minutes 10 secondes. Tous les systèmes sont en état de fonctionnement optimal. Personne ne nous poursuit encore, mais le Saint-Antoine nous suit sur ses systèmes de détection à longue portée. Aîné se mit debout.
Descendons voir le passage en C+.
Descendre voir, m'étonnai-je. Où ça? Dans la fosse solo?
Non!
Cria-t-elle dans l'escalier.
À l'extérieur!
Le vaisseau avait un balcon. Je l'ignorais. On pouvait s'y tenir même quand il était lancé à travers l'espace, prêt à se translater à des pseudo-vitesses C+. Personne ne m'avait jamais dit cela. Et si quelqu'un me l'avait dit, je ne l'aurais pas cru.
Déployez le balcon, s'il vous plaît,
avait demandé Aîné. Le vaisseau s'était exécuté aussitôt. Le Steinway avait même suivi le mouvement et nous étions tous sortis dans l'espace autour de lui. Pas vraiment dans l'espace, naturellement. Même moi, modeste berger de province, je savais que nos tympans n'auraient pas manqué d'exploser, que nos yeux auraient éclaté et que notre sang aurait bouillonné dans nos corps si nous étions réellement sortis dans le vide spatial. Mais c'était bien l'impression que cela nous faisait.
« Il n'y a pas de danger ?» demandai-je en allant m'appuyer contre la balustrade.
Derrière nous, la planète Hyperion était une tête d'épingle. L'étoile brillait d'un éclat vif à bâbord, mais la traînée de plasma de notre tuyère à fusion, longue de plusieurs dizaines de kilomètres, donnait l'impression que nous étions perchés de manière précaire sur une haute colonne de feu bleuté. Ce spectacle était nettement générateur d'acrophobie, et l'illusion d'être exposé sans protection au milieu de l'espace créait un sentiment équivalent à l'agoraphobie. Jusqu'à cet instant, j'ignorais totalement être sensible à quelque phobie que ce fût. Si le champ de confinement tombe en panne, ne serait-ce qu'une seconde, nous expliqua Abétic, à la vitesse et sous le nombre de jets qui sont les nôtres, nous mourrons sur le champ, que nous nous tenions à l'intérieur ou à l'extérieur.
Et les radiations ? Demandai-je.
Naturellement, le champ agit comme un déflecteur en ce qui concerne les rayonnements cosmiques et solaires dangereux. Il assombrit également la vue du soleil d'Hyperion pour que nous ne soyons pas aveuglés en le regardant. À part cela, il laisse passer le spectre visible de manière tout à fait satisfaisante.
« Oui, »
murmurai-je pas très convaincu en m'écartant de la balustrade. « Translation dans 30 secondes, » fit le vaisseau. Même sur le balcon, sa voix semblait flotter dans l'air. Aîné s'assit sur le tabouret du piano et commença à jouer. Je ne reconnus pas l'air, mais c'était apparemment du classique. 26e siècle, sans doute. Je suppose que je devais m'attendre à ce que le vaisseau nous prévienne avant la translation. Au moins un compte à rebours, quelque chose comme ça. Mais le changement s'opéra sans avertissement. Soudain, le propulseur Hawking prit la relève de la tuyère à fusion. Il y eut un bourdonnement bref qui semblait venir de mes os mêmes. Un terrible vertige me traversa et m'imprégna tout entier, comme si j'étais retourné comme une chaussette, sans douleur, mais de manière implacable. Puis la sensation disparut avant même que j'aie le temps de la comprendre. Il n'y avait plus d'espace. Par espace, j'entends le spectacle que nous avions sous les yeux moins d'une seconde plus tôt. Le soleil éclatant d'Hyperion, le disque de plus en plus petit de la planète proprement dite, le reflet brillant de la coque, les quelques étoiles visibles à travers cet éclat et même la colonne de flammes bleues sur laquelle nous étions perchés. Tout cela avait disparu. il n'y avait plus maintenant que... C'est difficile à dire. Le vaisseau était toujours là, se profilant au-dessus et au-dessous de nous. Le balcon où nous étions avait toujours l'air substantiel, mais aucune lumière ne semblait l'atteindre. Je me rends compte en écrivant cela que c'est absurde, car tout ce qui est visible reçoit nécessairement de la lumière. Mais l'effet produit était réellement le même que si mes yeux avaient cessé de fonctionner et que, tout en ayant conscience de la masse et de la forme du vaisseau, je ne percevais absolument aucune lumière. Au-delà du vaisseau, l'univers s'était contracté en une sphère bleue à la proue et une sphère rouge à la poupe, derrière les ailerons. J'avais suffisamment de connaissances scientifiques de base pour m'attendre à un effet Doppler, mais cet effet-là était factice, dans la mesure où nous étions bien en deçà de la vitesse de la lumière pendant la translation vers C+, et largement au-delà maintenant que nous nous trouvions pris dans le repli Hawking. Cependant, les cercles de lumière bleue et rouge, je distinguais les étoiles agglutinées dans les deux sphères si je les fixais suffisamment longtemps, étaient maintenant en train de se déplacer vers les deux extrémités du vaisseau en se rétrécissant à la dimension de deux minuscules points colorés. Et entre les deux, il n'y avait plus rien. Je ne veux pas dire que tout était noir, ou plus ou moins sombre, c'était vraiment le néant. Un vide écœurant, comparable à ce que l'on ressent quand on essaie de fixer un point aveugle. Un néant si intense que le vertige produit se changeait immédiatement en nausée, empoignant tout mon être avec autant de violence que l'avait fait, quelques secondes plus tôt, l'impression fugitive d'être retourné comme une chaussette.
« Mon Dieu !»
réussis-je à balbutier en m'agrippant à la balustrade, les yeux fermés. Cela ne me fut guère d'un grand secours. Le vide était toujours là. Je compris, en cette seconde, pourquoi les voyageurs interstellaires optaient toujours pour la fugue cryotechnique. Incroyablement, impensablement, Aîné continuait de jouer du piano. Les notes étaient pures et cristallines, comme si aucun médium ne les altérait. Malgré mes yeux fermés, je vis Abetik près de la porte, son visage bleu levé vers le vide. Ou plutôt, je m'aperçus qu'il n'était plus bleu. Les couleurs n'existaient plus ici. Il n'y avait pas non plus de noir, ni de blanc, ni de gris. Je me demandais alors si c'était de cette manière démente que les humains aveugles de naissance rêvaient de la lumière et des couleurs. « Je compense », fit la voix du vaisseau qui avait la même sonorité cristalline que les notes de piano d'aîné. Soudain, le vide s'effondra sur lui-même, la vision revint et les sphères rouges et bleues se reformèrent à la proue et à la poupe. Quelques secondes plus tard, la sphère bleue de l'arrière se déplaça le long du vaisseau comme un beignet embroché sur un stylo. Le bleu se mélangea au rouge et des formes géométriques multicolores explosèrent sans avertissement de l'intérieur de la sphère de proue comme des créatures volantes jaillissant d'un œuf. Je dis « formes géométriques multicolores », mais cela ne rend nullement justice à la complexité de la réalité. Les formes fractales pulsaient, s'enroulaient et se tordaient dans ce qui était, quelques instants auparavant, le vide spatial. Des spirales hérissées de leur propre subgéométrie s'enroulaient sur elles-mêmes, crachant des formes plus petites de la même brillance cobalt et rouge sang. Des ovoïdes jaunes se transformaient en explosions de lumière d'une précision de pulsar. Des hélicoïdes indigo et mauve, ressemblant à l'ADN de l'univers, nous dépassaient en spiralant. J'entendais leurs couleurs sous la forme d'un lointain tonnerre, ou comme si d'énormes vagues se brisaient juste derrière l'horizon. Je m'aperçus que ma mâchoire tombait. Je me détournais de la balustrade et m'efforçais de me concentrer sur l'androïde et sur la fillette. Les couleurs de l'univers fractal dansaient sur eux. Aînée continuait à jouer doucement, ses doigts courant sur le clavier tandis qu'elle levait les yeux pour me regarder et admirer les cieux fractaux derrière moi.
« Nous ferions peut-être mieux de rentrer, » déclarai-je.
J'entendais chaque mot flotter séparément dans l'air, comme des perles de glace le long d'une branche.
« Fascinant !»
déclara Abeti, les bras toujours croisés, le regard posé sur le tunnel de forme qui nous entourait. Il avait de nouveau la peau bleue. Aînée cessa de jouer. Peut-être venait-elle seulement de prendre conscience de la terreur vertigineuse qui m'étreignait. Elle se leva, me prit la main
et me guida à l'intérieur du vaisseau. Le balcon rentra en même temps que nous. La coque se reforma. Je pus respirer de nouveau.
« Nous avons encore 6 jours, »
déclara Aîné. Nous étions assis dans la fosse au lot parce que les coussins y étaient plus confortables. Nous avions dîné et Abétique nous avait apporté des jus de fruits glacés qu'il avait sortis des tiroirs du réfrigérateur. Mes mains tremblaient légèrement tandis que la conversation suivait tranquillement son cours. « 6 jours, 9h27, » précisa le vaisseau. Aîné leva les yeux vers la cloison.
« Vaisseau, pourriez-vous vous tenir tranquille pendant quelque temps, à moins que vous n'ayez quelque chose d'important à dire ou que nous n'ayons une question à vous poser ?»«
Oui, H. Aîné, » répondit le système de bord.
« 6 jours, »
répéta la fillette.
« Il faudrait commencer à nous préparer. »«
Nous préparer à quoi ?» demandai-je après avoir bu une gorgée de jus glacé.
« Je pense qu'ils nous attendent là-bas. Il faut trouver un moyen d'arriver dans le système de Parvati, puis sur le vecteur Renaissance, sans qu'ils puissent nous intercepter. »
Je la dévisageais. Elle avait l'air fatiguée. Ses cheveux étaient encore mouillés et emmêlés après sa douche. Avec tout ce que disaient les cantos sur celle qui enseigne, je m'étais attendu à quelqu'un d'extraordinaire. Une jeune messie en toge, un phénomène lançant des prédictions obscures. Mais la seule chose extraordinaire qui émanait de cette jeune personne était l'extraordinaire clarté de ses yeux noirs. « Comment pourrait-il nous attendre ?» demandai-je. « Le système Mégatrans ne fonctionne pas depuis des siècles. Les vaisseaux de la Pax que nous avons laissés derrière nous n'ont aucun moyen de communiquer si loin comme ils le faisaient à ton époque. » Aîné secoua la tête.
« Le système Mégatrans a cessé de fonctionner bien avant ma naissance. Rappelle-toi, ma mère était enceinte de moi pendant la chute. »
Elle regarda Abétique. L'androïde était occupé à boire son jus, mais il ne s'était pas assis comme nous.
« Désolé, »
dit-elle,
« mais je ne me souviens vraiment pas de vous. Comme je l'ai déjà dit, j'allais souvent à la cité des poètes et je croyais connaître tous les androïdes. »
Il inclina légèrement le front. « Vous ne pouvez pas vous souvenir de moi, Aîné. J'avais déjà quitté la cité des poètes avant le pèlerinage de votre mère. Mes frères et moi, nous étions employés sur la rive du fleuve Ouli et sur la mer des Hautes Herbes. Après la chute, nous avons quitté le service et vécu seuls en différents endroits.
« Je vois, »
fit-elle.
« Il s'est passé pas mal de choses insensées après la chute. Je me souviens. » Un androïde aurait été en danger à l'ouest de la chaîne bridée.
Je captai son regard. Sérieusement, insistai-je, comment quelqu'un pourrait-il nous attendre sur Parvati? Ils ne peuvent pas se déplacer plus vite que nous. Nous avons atteint la vitesse quantique les premiers, et le mieux qu'ils puissent espérer, c'est se translater dans l'espace de Parvati 1 heure ou 2 après notre arrivée.
Je sais,
me dit Aîné,
mais je pense tout de même qu'ils nous attendent là-bas. Il faut que nous trouvions un moyen de déjouer ou de distancer un vaisseau de guerre.
Nous bavardâmes encore quelques minutes, mais aucun de nous, pas même le vaisseau, lorsque nous lui posâmes la question, n'avait la moindre idée. Pendant que nous parlions, je ne cessais d'observer Aîné. J'aimais la manière dont ses lèvres se retroussaient légèrement en un sourire lorsqu'elle réfléchissait très fort, et le double sillon qui creusait son front lorsqu'elle parlait très sérieusement, toujours d'une voix très douce. Je comprenais mieux, à présent, pourquoi Martin Silenus tenait tant à la protéger de tout danger. « Je me demande pourquoi le vieux poète ne nous a pas appelés avant notre départ du système, » murmurai-je. « Il avait certainement envie de te parler. » Aîné passa ses doigts comme un peigne dans ses cheveux.
« Oncle Martin ne songerait jamais à communiquer avec moi sur Faisceau étroit ou sur Holo. Nous nous sommes mis d'accord pour ne nous parler qu'à la fin du voyage. »
Je la regardais bouche bée. Tu veux dire que vous aviez tout prévu ensemble? Ta fuite, le tapis Hawking et tout le reste? Elle sourit de nouveau à cette pensée.
C'est ma mère et moi qui avons pensé aux détails essentiels. Après sa mort, mon oncle Martin et moi, nous avons revu notre plan, et il m'a accompagné ce matin jusqu'au Sphinx.
Ce matin? Demandai-je, l'esprit en proie à la plus grande confusion. Puis je compris soudain.
« Cela a été une très longue journée pour moi, »
me dit-elle d'une voix mélancolique.
En quelques pas, ce matin, j'ai couvert la moitié du temps que les humains ont passé sur Hyperion depuis l'origine. Tous les gens que je connaissais, à l'exception de l'oncle Martin, doivent être morts.
Pas nécessairement, répliquai-je. La Pax est arrivée peu de temps après ta disparition. Beaucoup de tes anciens parents et amis ont dû accepter la croix, et il est possible que tu les retrouves.
Accepter la croix ?
Répéta Aîné en frissonnant légèrement.
Mais je n'ai jamais eu d'autres parents que ma mère. Et je doute que beaucoup de mes amis ou des siens aient accepté la croix.
Nous nous regardâmes en silence durant quelques instants. Je compris à quel point cette jeune créature était exotique. La plupart des événements de l'histoire d'Hyperion qui m'étaient familiers ne s'étaient pas encore produits lorsque cette fillette avait porté ses pas à l'intérieur du sphinx ce matin.
Quoi qu'il en soit,
reprit-elle,
nous n'avions pas envisagé les détails de l'utilisation du tapis Hawking. Nous ne pouvions pas savoir naturellement si le vaisseau du consul reviendrait avec ou non. Mais nous avions prévu de passer par le labyrinthe si la vallée des tombeaux du temps était déclarée zone interdite. Et cela a parfaitement bien marché. Pour le reste, nous comptions bien sur le vaisseau du consul pour me faire quitter la planète.
Parle-moi de ton époque, demandai-je. Elle secoua la tête.
Plus tard,
me dit-elle.
Tu en as déjà entendu parler. Pour toi, c'est de l'histoire et de la légende. Mais moi, je ne connais rien de la tienne, à part mes rêves. Parle-moi du présent. Quelles sont ses dimensions, sa largeur, sa profondeur? Combien puis-je en conserver?
Je ne saisissais pas très bien à quoi ces dernières questions faisaient allusion, mais je me mis à lui parler de la Pax, de la grande cathédrale de Saint-Joseph et de...
Saint-Joseph? C'est où, ça?
Cela s'appelait Kitts à ton époque, la capitale. Elle portait aussi le nom de Jacktown.
Ah !
Fit-elle en se laissant aller en arrière contre les coussins, son verre de jus entre ses petits doigts minces.
Ils ont changé le nom. Trop païen. Bah, j'imagine que cela aurait laissé mon père indifférent.
C'était la deuxième fois qu'elle mentionnait son père. Je supposais qu'elle voulait parler du cybride Kitts, mais je m'abstins de l'interrompre pour lui poser la question. Oui, déclarai-je, beaucoup de cités et de lieux-dits ont été rebaptisés quand Hyperion est entré dans la Pax, il y a 2 siècles. Il était même question de rebaptiser le système, mais le nom est resté. De toute manière, la Pax ne gouverne pas directement ce monde. Mais les militaires y ont fait régner l'ordre depuis... Je continuais ainsi durant quelque temps. Je lui parlais de l'évolution technologique, de la culture, du langage et du gouvernement. Je lui décrivis ce que j'avais vu, lu et entendu dire sur les mondes les plus avancés de la Pax, y compris les gloires de Passem.
Ouf,
me dit-elle lorsque je marquais une pause.
Les choses n'ont pas tellement changé finalement. On dirait que la technologie est au point mort. Elle n'a pas encore rattrapé l'époque de l'hégémonie.
C'est la Pax qui est en partie responsable de cet état des choses. L'Église interdit les machines pensantes, l'intelligence artificielle, et préfère mettre l'accent sur le développement spirituel de l'homme plutôt que sur le progrès technologique. Aîné hocha la tête.
Je comprends, mais en 2 siècles et demi, on pourrait croire qu'ils auraient au moins rattrapé le niveau de l'ancien Retz. On se croirait au Moyen-Âge, ma parole.
Je souris. En partie parce que je me rendais compte que j'étais légèrement vexé. Vexé par une critique qui s'adressait à une société régie par la Pax et que je refusais de cautionner. « Et pas tout à fait, quand même, » répliquai-je. « N'oublie pas qu'il y a eu un grand changement, celui de l'immortalité virtuelle. Pour cette raison, la démographie est soigneusement contrôlée et il y a une tendance à vouloir conserver l'aspect extérieur des choses. La plupart des chrétiens régénérés considèrent qu'ils vivront plusieurs siècles, et même plusieurs millénaires, avec un peu de chance. Et ils ne sont pas pressés de changer quoi que ce soit à la société. Aîné me regarda avec attention.
Ce truc de résurrection du cruciforme, ça marche vraiment alors?
Bien sûr.
Dans ce cas, pourquoi n'as-tu pas accepté la croix?
Pour la 3e fois en quelques jours, je me trouvais incapable de fournir une explication. Je haussais les épaules. Par perversité, j'imagine. Je suis têtu de nature. Il faut dire que beaucoup de jeunes comme moi s'en écartent. On se croit éternel quand on est jeune, pas vrai? Pour se convertir quand la vieillesse commence à s'installer.
Ce sera ton cas ?
Fit-elle en me transperçant de ses yeux noirs. Je m'abstins de hausser une nouvelle fois les épaules, mais j'eus un geste de la main qui était équivalent.
« Je ne sais pas, » lui dis-je.
Je ne lui avais pas encore parlé de mon exécution et de ma résurrection organisée par Martin Silenus.
« Je ne sais vraiment pas, » répétai-je.
Abétic pénétra dans le cercle holo. « Je me permets de vous signaler que ce vaisseau est pourvu d'une bonne provision de glace à des parfums variés, » nous dit-il. « Seriez-vous intéressé ?» Je conçus mentalement une phrase destinée à lui rappeler qu'il n'était pas notre serviteur durant cette croisière, mais Aîné me prit de vitesse en s'écriant
« Oh oui, au chocolat !»
Abétic hocha la tête en souriant, puis se tourna dans ma direction. À Chandimion. La journée avait été longue, le voyage en tapis hawking à travers le labyrinthe, la tempête de sable, le carnage qu'elle attribuait au Gritch, et pour finir, mon premier voyage interstellaire. Je n'avais pas eu beaucoup de journées comme ça dans ma vie.
« Moi aussi, » déclarai-je.
« Au chocolat, ça ira très bien. »
Chapitre 20. Les deux rescapés de l'escouade du sergent Grégorius sont le caporal Bassin Key et le lancier Aranwal Gaspa Kate Rettig. Key est un petit homme trapu et vif, aussi bien en réflexe qu'en intelligence, alors que Rettig est très grand, presque autant que le géant Grégorius, mais aussi maigre que ce dernier est massif. Rettig est originaire des territoires de l'anneau de Lambert. Il a les marques de radiation, l'ossature et la posture penchée qui caractérisent les stroïdiens. De Soya a appris que l'homme n'avait jamais posé le pied sur un monde de taille et de gravité normale jusqu'à l'âge de 23 années standard. Les médications à base d'ARN et l'exercice militaire soutenu de la Pax l'ont endurci au point qu'il est maintenant capable de se battre sur n'importe quel monde. Réservé, au point de n'ouvrir presque jamais la bouche, âgé Kate Rettig sait écouter, obéir aux ordres et, comme il l'a montré durant la bataille d'Hyperion, survivre. Le caporal Key est aussi loquace que Rettig est taciturne. Durant leur première journée de bavardage, ses questions et commentaires indiquent qu'il est pourvu d'un solide sens de l'intuition et de la clarté, malgré les effets obnubilants de la résurrection. Les quatre hommes sont secoués par l'expérience de la mort. De Soya essaie de les convaincre que l'habitude facilite la chose, mais ses tremblements et ses absences démentent son assurance. À bord de ce vaisseau, sans aide psychologique ou médicale, sans chapelain de résurrection, chacun fait face à son traumatisme du mieux qu'il peut. Et leur réunion, le premier jour dans l'espace de Parvati, est fréquemment interrompue par la fatigue et l'émotion. Seul le sergent Grégorius, en apparence, demeure imperturbable. Le troisième jour, ils se réunissent dans le carré exigu du Raphaël pour préparer leur plan d'action final. Dans 2 mois et 3 semaines, ce vaisseau va se translater dans le système à moins de 1000 kilomètres de l'endroit où nous sommes stationnaires, explique le père capitaine de Soya. Nous devons être absolument certains de pouvoir les intercepter et nous emparer de l'enfant. Aucun des gardes suisses n'a demandé pourquoi la fillette avait une telle importance. Aucun ne posera la question tant que leur commandant, de Soya, n'abordera pas le sujet le premier. Ils sont tous prêts à mourir, si nécessaire, pour exécuter des ordres dont ils ne saisissent pas la portée.
« Nous ignorons qui est à bord de ce vaisseau avec elle, n'est-ce pas ?»
demande le caporal Key. Ils ont déjà discuté de tout cela, mais leur mémoire est un peu défectueuse les premiers jours de leur existence régénérée.
« C'est exact, » répond de Soya.
Et nous ne savons pas non plus de quel armement il dispose, reprend Key comme s'il cochait au fur et à mesure une liste qu'il a dans la tête.
Non. Nous ignorons si Parvati est leur destination réelle.
Vous avez raison.
Il se pourrait donc, reprend Key, que leur vaisseau ait rendez-vous ici avec un autre, ou que cette fillette veuille rencontrer quelqu'un à la surface.
De Soya hoche la tête.
Le Raphaël ne possède pas un équipement aussi perfectionné que mon ancien vaisseau torche. Mais nous balayons tout l'espace situé entre le nuage d'Ouort et Parvati. Si un autre vaisseau se translatait avant celui que nous attendons, nous ne manquerions pas de le savoir immédiatement.
« Des extros ?» demande Grégorius.
De Soya lève les bras en l'air.
« Toutes les spéculations sont permises. Je peux vous dire que cet enfant est considéré comme une grande menace pour la Pax. Il est donc assez raisonnable de penser que les extros, si toutefois ils sont au courant de son existence, peuvent vouloir s'en emparer eux aussi. Au cas où ils essaieraient, nous sommes prêts. Le caporal Key frotte sa joue imberbe. Je n'arrive toujours pas à croire que nous puissions rentrer chez nous en une journée si nous le voulions, ou que nous puissions obtenir de l'aide. Chez nous, pour le caporal Key, c'est la République de Jamnou, sur Denebdrey. Ils ont déjà discuté sur l'utilité de demander de l'aide. Le plus proche vaisseau de guerre de la Pax est le Saint-Antoine, qui devrait être actuellement, si les ordres de De Soya ont été obéis, à la poursuite du vaisseau de la Fillette en temps réel. J'ai envoyé un message sur faisceau étroit au commandant de la garnison de la Pax sur Parvati, explique De Soya. Comme nous l'avait déjà indiqué notre inventaire informatique, il ne dispose que d'un patrouilleur orbital et d'une paire de saute-montagne. Je lui ai ordonné de placer tous ses appareils en position 6 lunaire défensive, d'alerter tous les avant-postes de la planète et d'attendre de nouvelles instructions. Si la Fillette réussit à franchir notre dispositif et à se poser sur ce monde, la Pax la retrouvera obligatoirement.
À quoi ressemble Parvati ?
Demande Grégorius. Sa voix de basse vibrante ne manque jamais de capter toute l'attention de De Soya. Cette planète a été peuplée par des hindous réformés peu de temps après l'Égir, explique le père capitaine, qui a trouvé tous ces détails dans l'ordinateur de bord. C'est un monde désertique qui ne possède pas assez d'oxygène pour permettre la vie humaine. L'atmosphère est surtout composée de CO2 et le peuplement n'a jamais été assez important pour qu'une terraformation totale soit envisagée. Quand ce n'est pas l'environnement qui est adapté, ce sont les gens. Avant la chute, il y avait 12 millions d'habitants recensés. Aujourd'hui, il y en a moins d'un demi-million, et la plupart vivent dans la capitale, Gandhiji.
Des chrétiens ?
Demande Key. De Soya devine que sa question n'est pas simplement le reflet d'une curiosité gratuite. Key parle rarement à la légère. Quelques milliers d'habitants de Gandhiji se sont effectivement convertis. Il y a une nouvelle cathédrale dans la capitale, Saint-Malachy. Et la plupart des régénérés sont des notables ou des hommes d'affaires influents qui sont en faveur d'entrer dans la Pax. Ils ont réussi à convaincre le gouvernement planétaire, une sorte d'oligarchie élective, d'accueillir cette garnison de la Pax il y a une cinquantaine d'années standard. Ils sont assez proches des confins pour s'inquiéter des extros.
Le caporal Key hoche lentement la tête. J'étais en train de me demander si la garnison pouvait compter sur la population pour qu'elle lui signale l'arrivée éventuelle du vaisseau de la petite fille.
Peu probable. La planète est déserte à 99%. Même les parties anciennement colonisées ont été reprises par les sables et les lichens. Les zones d'habitation se situent autour des grandes mines de bolite dans les environs immédiats de Gandhiji. Mais la patrouille orbitale ne manquerait pas de repérer le vaisseau.
S'il arrive jusque-là, fait Grégorius.
La chose est effectivement exclue, déclare le père capitaine De Soya. Il effleure la surface du moniteur qui se trouve devant lui. Un graphique qu'il a préparé s'affiche. Voici le plan d'interception, dit-il. Nous serons en sommeil jusqu'au jour T-3. Ne vous alarmez pas, la fugue n'a pas du tout les effets désagréables de la résurrection. En une demi-heure, tout est rentré dans l'ordre. Le réveil sonne à T-3. Entre-temps, le Raphaël est venu se placer ici. Il indique sur l'écran un point situé aux deux tiers de la trajectoire ellipsoïde. Nous connaissons la vitesse d'entrée C+ de leur vaisseau, ce qui signifie que nous connaissons aussi sa vitesse de sortie. Elle sera égale à environ 0,03 C, de sorte que s'ils décélèrent en direction de Parvati de la même manière que lorsqu'ils ont quitté Hyperion, la trajectoire et les diagrammes en ligne de temps se dessinent sur l'écran. Il devrait apparaître ici. Tout cela est hypothétique, bien sûr, mais leur point de translation ne l'est pas. Il place la pointe d'un stylet sur un point rouge situé à 10 UA de la planète. L'ellipsoïde de leur propre trajectoire se dirige en pointillé vers ce point. Et c'est ici que nous les intercepterons, à moins d'une minute de leur point de translation, conclut-il.
Grégorius se penche vers son propre moniteur.
Nous allons tous être lancés comme des putains de croix de chauve-souris de l'enfer, pardonnez-moi mon langage, père capitaine.
De Soya lui sourit.
Vous êtes absous, mon fils. C'est vrai, nous serons lancés à de très grandes vitesses et nos V-Delta combinés seront très élevés lorsque leur vaisseau commencera à décélérer en direction de Parvati. Mais les vitesses relatives des deux vaisseaux seront presque nulles.
Serons-nous très près d'eux, capitaine ? Demande Ki, dont les cheveux noirs brillent sous les spots du plafond.
Quand ils émergeront de leur translation, nous arriverons sur eux à une distance de 600 km. 3 minutes plus tard, nous serons assez près pour leur lancer une pierre.
Et eux ? Demande Ki en fronçant les sourcils. Qu'est-ce qu'ils vont nous balancer ?
La réponse m'est inconnue. Mais le Raphaël est coriace. Je parie que ces boucliers peuvent encaisser tout ce que le vaisseau non identifié est capable de nous envoyer.
Le lancier Rétig laisse entendre un grognement.
Ce genre de pari, on n'a pas intérêt à le perdre.
De Soya fait pivoter son siège dans la direction du soldat. Il avait presque oublié sa présence.
C'est vrai, dit-il. Mais nous avons l'avantage de la proximité.
Quoi qu'il nous lance, ils n'auront qu'un temps très limité pour le faire.
Et nous, qu'est-ce qu'on peut leur tirer ?
Demande Grégorius de sa grosse voix tonnante. De Soya a un instant d'hésitation.
Nous avons passé ensemble en revue l'armement du Raphaël. Si c'était à un vaisseau extra que nous avions affaire, nous pourrions le griller, le carboniser, l'éventrer ou le faire sauter. Nous pourrions aussi causer la mort très lente de son équipage sans le détruire.
Le Raphaël transporte tout un assortiment d'armes rayonnantes à base de technologie du rayon de la mort. À 500 km de distance, leur efficacité ne saurait susciter aucun doute.
Mais nous n'allons rien faire de tout cela, reprend le père capitaine. À moins que nous n'ayons absolument besoin de mettre leur vaisseau dans l'incapacité de manœuvrer.
Le pourrions-nous sans mettre la vie de la fillette en danger ? Demande Ki.
Nous n'aurions pas une certitude totale.
De Soya s'interrompt de nouveau, respire fort et continue.
C'est la raison pour laquelle vous allez la prendre à l'abordage.
Grégorius arbore un sourire radieux. Ses dents sont très larges et très blanches.
Nous avons emporté suffisamment d'armure de combat pour tout le monde quand nous avons quitté le Saint-Thomas Akira,
dit-il d'une voix joyeuse.
Mais il vaudrait mieux s'entraîner avant l'abordage.
3 jours, ça ne vous suffit pas ?
Une semaine, ce serait mieux,
fait le géant en souriant.
D'accord. Nous nous réveillerons donc une semaine avant l'interception.
Voici un plan du vaisseau non identifié.
Je croyais qu'il était d'un type inconnu, s'étonne Ki en regardant les diagrammes qui occupent maintenant les moniteurs.
Le vaisseau spatial a la forme d'un étroit cigare avec des ailerons au bout, une caricature d'astronef dessinée par un enfant.
Nous ignorons son identité spécifique et son numéro d'immatriculation,
explique De Soya, mais le Saint-Antoine nous a transmis des images vidéo sur faisceau étroit. Elles ont été prises par le Bonaventure et lui avant notre translation.
Il ne s'agit pas d'un extro.
Ni un extro, ni un mercantilus, ni la Pax, ni un vaisseau de spin, ni un vaisseau torche.
Qu'est-ce que c'est alors ? Demande Ki. De Soya fait défiler plusieurs images jusqu'à ce que s'affichent quelques plans de coupe.
C'est un vaisseau privé qui date de l'époque de l'hégémonie,
murmure-t-il.
Une trentaine d'exemplaires seulement ont été fabriqués. Il a au moins 400 ans, sans doute davantage.
Le caporal Ki siffle doucement entre ses dents, tandis que Grégorius se frotte la mâchoire. Même Rétig, derrière son masque d'impassibilité, semble impressionné.
Je ne savais pas que ça existait, des vaisseaux privés,
dit-il.
En sait plus, naturellement.
L'hégémonie les offrait à ses caciques à titre de récompense,
explique De Soya. Le premier ministre Gladstone en possédait un, ainsi que le général Horace Glennon Hyde.
Ce n'est certainement pas l'hégémonie qui le lui a donné,
fait Ki en gloussant. Glennon Hyde fut le plus infâme et le plus légendaire des adversaires que l'hégémonie ait connu dans ses premiers temps, l'équivalent d'un Hannibal extra pour la Rome du Retz.
C'est vrai, reconnaît De Soya. Le général avait volé son vaisseau au gouverneur planétaire de Sol Draconi Septem. Quoi qu'il en soit, d'après l'ordinateur,
tous ces vaisseaux privés ont été recensés après la chute. Et tous ont été détruits ou reconfigurés pour être utilisés par la Force avant d'être définitivement désarmés. Apparemment, l'ordinateur se trompe.
Ce n'est pas la première fois, grogne Grégorius. Et ces images à longue portée nous donnent-elles une idée de l'armement ou des systèmes défensifs du vaisseau?
Non. La seule chose que nous savons, c'est qu'il s'agissait à l'origine de vaisseaux civils, sans aucun armement. Les détecteurs du Saint-Bonaventure n'ont mis en évidence la présence d'aucun radar d'acquisition ni d'aucun lecteur d'impulsion avant que le Gritch ait massacré toute l'équipe d'imagerie. Mais ce vaisseau a des siècles, et nous pouvons supposer qu'il a subi des modifications. Cependant, même avec des capacités défensives modernes de type extro, il ne devrait pas pouvoir empêcher le Raphaël de s'approcher de très près tout en demeurant protégé de leurs armes offensives. Dès que nous serons bord à bord, ils ne pourront plus utiliser leurs armes cinétiques. Et lorsque nous lancerons nos grappins, il sera trop tard pour leurs armes rayonnantes.
Un corps à corps, murmure Grégorius comme pour lui seul. Le sergent étudie attentivement les diagrammes, puis réfléchit à haute voix.
Et ils nous attendront près du sas. Le mieux serait de créer une ouverture, ici et ici.
De Soya ressent un picotement d'alarme. On ne peut pas faire de brèche. Si l'atmosphère s'échappe, la fille... Grégorius a un sourire de requin.
Ne vous inquiétez pas pour elle, capitaine. Il faut moins d'une minute pour installer une grande poche étanche sur la coque. J'en ai apporté plusieurs avec les armures. On fait sauter une section de la coque, on s'engouffre à l'intérieur.
Il règle son moniteur pour avoir une image en gros plan.
Je vais programmer une steam sim pour que nous puissions nous entraîner en 3D pendant quelques jours.
Il tourne son visage noir vers De Soya.
Nous n'allons peut-être pas jouer longtemps à la belle au bois dormant, finalement.
Qui est en train de se tapoter les lèvres avec un doigt?
J'aurais une question, capitaine, dit-il.
De Soya se tourne vers lui.
J'ai bien compris qu'il ne doit être fait aucun mal à la fille, mais en ce qui concerne ceux qui l'accompagnent et qui se mettraient en travers de notre chemin...
De Soya soupire. Il attendait cette question.
Je préférerais que personne ne soit tué dans le cadre de cette mission, caporal.
Très bien, capitaine,
fait Key le regard alerte. Mais s'ils essaient de nous arrêter?
Le père capitaine éteint le moniteur. Il flotte dans la cabine exiguë une odeur de pétrole, de sueur et d'ozone.
Mes ordres sont très clairs, dit-il d'une voix lente et réfléchie. Il ne doit être fait de mal à l'enfant en aucun cas. Pour le reste, si quelqu'un ou quelque chose à bord de ce vaisseau tente de s'interposer, n'hésitez pas à agir comme bon vous semblera. Défendez-vous, même si cela signifie que vous tirerez les premiers, avant d'avoir identifié le danger avec certitude.
On tue tout le monde, murmure Grégorius, à l'exception de l'enfant. Et Dieu reconnaîtra les siens.
De Soya a toujours détesté cette vieille expression de mercenaire.
Vous ferez ce qu'il y a à faire, à condition de ne pas mettre la santé ni la vie de l'enfant en danger,
murmure-t-il. Et s'il n'y a qu'une seule chose à bord pour s'interposer entre la fille et nous?
Demande Rettig. Les trois autres se tournent vers le stroïdien qui finit alors sa phrase.
Et si cette chose, c'est le Gritch?
La cabine est plongée dans un silence total, à l'exception des bruits habituels du vaisseau. Craquement de la coque dont le métal se contracte ou se dilate, susurrement des ventilateurs, bourdonnement des appareils électroniques, crachotement occasionnel d'un moteur.
« Si c'est le Gritch, »
commence le père capitaine de Soya. Il ne finit pas sa phrase.
« Si c'est le vilain petit Gritcho, »
fait le sergent Grégorius,
« je crois qu'il peut s'attendre à quelques surprises. Le deuxième round ne sera peut-être pas aussi facile pour ce putain d'enfoiré à épines. Pardonnez-moi mon langage, mon père. »
En tant que prêtre, lui dit De Soya, je vous désapprouve d'utiliser un tel vocabulaire. En tant que commandant de ce vaisseau, je vous ordonne de préparer le plus possible de surprises susceptibles d'avoir la peau de ce putain d'enfoiré à épines.
Ils interrompent la réunion pour prendre leur repas du soir et se préparer à leur mise en fugue.